Donc cet hasard de la coïncidence de la mort dans le mois d'avril de 1616 de Shakespeare et Cervantes a pu être comme un point de départ pour nourrir l'imaginaire d'une rencontre. Alors cette rencontre, évidemment, on pourra la retrouver dans Shakespeare lecteur de Cervantes, ou Cervantes, sinon lecteur de Shakespeare, mais incorporant certains éléments de la politique anglaise. Mais surtout, cette rencontre, elle peut entraîner des parallèles entre les deux œuvres. Et finalement, elle a pu aussi susciter une imagination d'une rencontre réelle, d'une rencontre dans l'existence entre les deux auteurs. Et ce mythe d'une rencontre entre Shakespeare et Cervantes, qui dialogue, qui échange, on le trouvera dans de très nombreux témoignages ou traces. Par exemple, un film. Il y a un film espagnol de 2007 qui a pour titre Miguel y William et qui narre la rencontre et le fait que les deux auteurs sont amoureux de la même femme, Leonor. C'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Inés Paris. Ou bien dans un texte publié par, en 2011 par Robin Chapman, Shakespeare's Don Quixote, le Don Quichotte de Shakespeare, où il y a, le genre se donne comme a novel in dialogue, un roman sous forme de dialogue, et où Shakespeare et Cervantes sont spectateurs d'une représentation du Cardenio, inscrit par l'un dans le Don Quichotte et mis en scène par l'autre avec la collaboration de Fletcher. Mais ce que je voudrais plutôt suivre de plus près aujourd'hui, c'est un troisième texte et qui est une nouvelle d'Anthony Burgess. Anthony Burgess, l'auteur de Orange Mécanique, et qui a pour titre Une rencontre à Valladolid. C'est un texte récent, il avait été publié pour la première fois en espagnol dans une traduction d'un auteur fameux, contemporain espagnol, Javier Marías, et il a été publié dans le supplément du journal El País, dans El País Semanal du 23 juillet 1987. Burgess a repris ensuite l'original, donc le texte qu'il avait écrit en anglais, dans un recueil de ses nouvelles qui a pour titre The Devil's Mode, le mode du diable, le mode au sens musical, puisque ce qui donne son titre à l'ensemble du recueil, ce n'est pas la rencontre à Valladolid, c'est de Shakespeare et Cervantes, c'est une autre nouvelle où on voit Debussy inventer le début du prélude pour l'après-midi d'un faune avec ce qui était considéré comme le mode du diable. Et la nouvelle qui ouvre ce recueil est celle de la rencontre à Valladolid. Et le texte a été traduit en français par Françoise Adelstein dans la traduction de l'ensemble des nouvelles qui constituent le mode du diable, The Devil's Mode, est publié par Grasset en 1999. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est un exercice un peu bizarre, c'est-à-dire, en fait, de lire cette fiction, qui est à la fois magnifique et érudite, en relation avec les données historiques ou les références littéraires dont s'empare Burgess, mais évidemment en les transposant, les transformant, les déplaçant. C'est donc un jeu sur cette fiction d'une rencontre, mais enracinée dans un terreau qui est un terreau historiquement authentifié, que je voudrais essayer de suivre. Alors, le texte commence par les phrases suivantes. Donc, le texte de Burgess de 1987, première édition, il a peut-être été écrit avant, ça je ne sais pas. La délégation britannique débarqua à Santander par un temps infect. De là, il devait gagner Valladolid à cheval et dans des voitures de location. Ils furent accueillis sur le quai par quelques émissaires de la cour d'Espagne et un interprète nommé Don Manuel de Pulgar Garganta, dont l'attention ne se porta pas tant sur Milord ceci ou le duc de cela que sur un groupe d'acteurs qui, l'air navré, surveillaient avec angoisse le transport vers le rivage de leur propre chariot par un bateau ivre que manœuvraient des rameurs basanés. Le début, évidemment, est lié à un fait historique. Le fait historique est celui du traité de paix entre l'Angleterre, à l'arrivée sur le trône au début du XVIIe siècle de Jacques Ier, Jacques VI d'Écosse, et l'Espagne. Et ce traité de paix qui mettait fin à des années de guerre, dont l'épisode le plus marquant avait été celui de la tentative d'invasion de l'Angleterre par les Espagnols en 1588 avec l'invincible mais vaincu Armada, avait eu deux temps. Un premier temps à Londres, 1614, entre le 9 et le 27 août, le connétable de Castille, Juan Fernández de Velasco, avec 234 gentilshommes espagnols, était venu à Londres pour établir les articles du traité de paix et le serment du roi d'Angleterre, Jacques Ier, à ce traité. Durant ce séjour, on sait qu'un programme de divertissement avait été offert à l'ambassade espagnole, dont le responsable était le comte de Southampton, le dédicataire des deux poèmes de Shakespeare dans les années 1593-1594, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce, et qu'il y avait eu des représentations de théâtre données par les hommes du roi, de King's Men, donc sans doute Shakespeare face à cette délégation imposante espagnol. De là, mais ce n'est pas un fil que je vais suivre, parce qu'il est plus minoritaire, certains imaginant que Cervantes faisait partie de cette délégation espagnole, on se demande pourquoi, mais Cervantes faisant partie de cette délégation pouvait avoir rencontré Shakespeare. La deuxième moment de cette paix, c'est entre le 6 avril et le 20 juin 1605, l'ambassade anglaise en Espagne. Une ambassade qui est menée par le comte de Nottingham, qui est en même temps le Lord Admiral d'Angleterre. Et cette ambassade, elle, est bien documentée. D'abord, elle est documentée du côté anglais par une relation, il y en a même deux, mais l'une est douteuse. La seconde se donne comme ayant été écrite par quelqu'un qui était membre de la délégation, un attendant, du Lord Admiral, et qui narre le voyage, le séjour et le retour de cette imposante délégation, 33 gentilshommes, 28 capitaines ou interprètes ou médecins, et dit le texte, beaucoup d'autres gentilshommes de bonnes conditions et qualités, et aussi les officiers et les serviteurs du comte de Nottingham. Et dans le texte même de la relation, on voit qu'à cette imposante délégation anglaise s'était ajouté un monde de serviteurs et de muletiers, puisqu'on transportait beaucoup de choses, des présents et aussi des nécessités, ce qui était nécessaire à la vie de la délégation. Et la compagnie, comme dit le texte anglais, atteignait 650 personnes. C'est donc un grand déplacement d'importance qui est là donné. Et cette visite du comte de Nottingham, elle est aussi connue par une relation publiée à Valladolid en 1605, qui n'est pas centrée seulement sur la visite de l'ambassade anglaise, mais qui est centrée sur un événement auquel participe l'ambassade anglaise, qui est le baptême du prince héritier Don Felipe, le fils de Philippe III et de Marguerite d'Autriche, et rencontre entre ces deux événements la présence de l'ambassade anglaise et le baptême de l'infant. Donc il y a là un soubassement historique documenté pour Burgess et ceux qui veulent l'imaginer une rencontre entre Cervantes et Shakespeare, avec une crédibilité plus forte que celle de Cervantes en Angleterre. On voit dès les commencements de cette nouvelle comment Anthony Burgess va jouer avec cette réalité historique. Je pense qu'il a lu la relation anglaise de 1605. D'abord parce qu'un premier écart sans grande importance, mais que la délégation n'a pas débarqué à Santander, mais a débarqué à La Coruña, ou en galicien à Coruña, qui est dans le texte anglais désigné comme la ville de Groyne, G-R-O-Y-N-E, et qui donne lieu à une première réception fastueuse des Anglais. Et surtout, il invente cette présence des acteurs que rien n'atteste dans la relation. S'il est vrai qu'ils ont joué à Londres pour les Espagnols, rien ne dit qu'il y avait une partie ou la totalité de la troupe des Kingsmen qui s'était rendue avec Nottingham en Espagne. La seule toute petite trace possible d'un fil entre les deux est la présence dans la délégation anglaise de George Buck. Et George Buck était un des assistants du Master of Revels. Le Master of Revels, c'est cet office à la cour de celui qui est en charge à la fois d'organiser les divertissements et de censurer, au sens d'accepter ou non, les pièces de théâtre jouées à la cour et puis ensuite même à Londres ou dans la totalité de l'Angleterre. À l'époque, le Master of Revels est Edmund Tilney, qui n'est pas dans la délégation en Espagne, mais cette présence de George Buck donnait un élément théâtral dans la délégation. Ils vont effectivement assister à des spectacles de théâtre, mais sans que les Anglais nulle part soient mentionnés comme ayant donné des spectacles de théâtre. Donc c'est la distorsion fondamentale qui permet à Burgess de faire voyager Shakespeare jusqu'à Valladolid. Et il mentionne, tout de suite après ce début, cette entrée en matière, le nom de ceux qui sont là, et les trois premiers noms sont les noms de trois des plus fameux comédiens de la troupe du roi, Robert Armin, qui jouait les rôles de clown, Richard Burbage, on l'a vu, un des ceux qui reçoit l'argent pour un anneau de deuil dans le testament de Shakespeare, Shakespeare lui-même, et d'ailleurs hein, Shakespeare doublement malade durant toute cette nouvelle, parce que d'une part il a très mal supporté le voyage, et d'autre part il ne supporte pas du tout la cuisine espagnole. Donc il est constamment pris par des douleurs épouvantables devant cette double mal au cœur. On voit que un des thèmes qui va devenir un thème fondamental de la nouvelle, c'est le thème de la langue, de la communicabilité ou de l'incommunicabilité, puisque tout de suite, ces Anglais sont accueillis par celui qui va être leur interprète, non Don Manuel de Pulgar Garganta. Pulgar, c'est le pouce, Garganta, c'est la gorge, donc c'est M. Pouce-Gorge qui les reçoit. On n'a aucune attestation historique, mais d'entrée de jeu est mis en place ce thème, parce que derrière la fiction qui est extrêmement amusante, derrière il y a des thèmes extrêmement sérieux. Le premier est celui-là, celui de communicabilité, incommunicabilité, et pour un cours comme celui-ci sur les rapports entre Espagne et Angleterre, c'est un point fondamental, le point des interprètes, des traductions, des connaissances des langues ou des méconnaissances des langues. Et d'entrée de jeu, on voit que cet interprète est rendu nécessaire par l'ignorance du castillan qu'affirme aussi bien que Burbage que Shakespeare. Ce qui n'était pas nécessairement une réalité historique forte. Burgess en a besoin parce qu'on va voir que le thème est récurrent, ce thème de traduire, ne pas traduire, comprendre, ne pas comprendre, connaître, ne pas connaître. Mais dans la réalité historique, l'espagnol était assez largement connu dans les milieux aristocratiques ou intellectuels de l'Angleterre du début du XVIIe siècle. On sait par exemple que plusieurs nobles comme Walter Raleigh ou Harrington connaissaient l'espagnol. On sait que parmi les écrivains, Fletcher connaissait l'espagnol, mais c'était le cas aussi de John Donne ou de Thomas Middleton. Donc il y a cette connaissance de l'espagnol, langue de l'ennemi, mais aussi langue de l'innovation littéraire, roman de chevalerie, roman picaresque, et en même temps langue qui pouvait, dans un temps où en Angleterre on cherchait à réformer l'orthographe ou les graphies, de façon à faire que ce qui se dit s'écrit et ce qui se dit ce qui s'écrit se prononce sans écart, alors que les langues comme l'anglais avaient de très nombreuses lettres qui ne se prononçaient pas. Donc il y a toute une obsession pour une réforme des graphies qui permettrait cette adéquation plus grande entre dire et écrire. Et l'espagnol paraissait, le castillan paraissait comme une des langues où cet écart était le moins grand possible, la moins imparfaite des langues où le rapport entre diction et graphie était le plus étroit. Il y a donc toute une série de raisons pour lesquelles l'espagnol, à l'époque castillan et espagnol peuvent être confondus, le trésor de Covarrubias, qui est le premier dictionnaire de la langue espagnole, a pour titre Tesoro de la lengua castellana o española. Donc il y a une synonymie qui ensuite pourra se dissoudre entre castillan et espagnol. Mais dans ce cas-là, il y a une connaissance. Donc ici, Shakespeare et Burbage ne sont pas de bons représentants de ce que serait la connaissance de l'espagnol dans des milieux, y compris des milieux intellectuels ou littéraires. Ils ont donc recours à un interprète. Une notation intéressante de Burgess est de suivre un autre chemin qui n'est pas seulement le chemin des interprètes, mais le chemin des langues partagées, des langues communes. Et dans ce cas-là, je cite, dit l'interprète espagnol, « Vos nobles seigneurs et les nôtres se comprennent assez bien à ce que j'entends dire dans la langue toscane. » Et le thème revient plus loin, comme si le toscan était une de ces langues de médiatrice que l'on pouvait utiliser, ce qui renvoie sans doute, et dans les textes du temps, les références à l'Arioste sont permanentes, à une connaissance à partir de la littérature du toscan. Donc l'arrivée telle qu'elle est décrite par Burgess. Ensuite, l'arrivée à Santander, en fait, la Coruña, tout cet ensemble de la délégation se transfère à Valladolid, qui est le siège de la cour d'Espagne depuis 1601. Ici, c'est le but étant de rencontrer le roi et la reine pour demander, dans la réalité historique, au roi d'Espagne de prêter serment, comme l'a fait le roi d'Angleterre à Londres, sur les actes, les articles du traité de paix. Mais ce passage de Santander, la Coruña, à Valladolid ne fait pas oublier à Burgess ce thème des langues et de la traduction. Il apparaît à deux moments. Lorsqu'ils arrivent à Valladolid, il y a un sermon, qui est un sermon en latin. Burbage ne comprend pas un mot du latin, mais Shakespeare, malgré ce que disait Ben Jonson dans son poème en l'honneur de Shakespeare, il avait peu de latin et encore moins de grec, ce qui n'a pas toujours été considéré comme un compliment de la part de Ben Jonson dans ses poèmes funéraires. Néanmoins, dans la fiction de Burgess, Shakespeare est capable de traduire le sermon, et ce sermon appartient à ce genre de la dénonciation par les clercs espagnols de l'hérésie qu'il attribue au calvinisme. Alors les personnages de la nouvelle font remarquer que l'Angleterre n'est pas calviniste, parce que, comme le dit Burgess, Calvin égale puritain, enfin, comme le dit Burbage, Calvin égale puritain égale fermeture des théâtres. Donc ils sont peu portés au calvinisme. Mais il y a là un arrière-fond historique fort, qui était ces discours avant les traités de paix et après les traités de paix, menés par l'Église d'Espagne, en particulier les clercs ou les frères, pour dénoncer l'hérésie anglaise, calviniste ou pas, et aussi pour dénoncer l'hypocrisie de la paix signée avec l'Angleterre. Et dans la relation de 1605 publiée à Londres, le but et de montrer que les Espagnols ont été reçus avec soin, avec attention, avec affection, avec un luxe et faste de dépenses, pour montrer que contre ces discours qui existent, en fait, ni le roi ni le peuple ne les partagent. L'autre résurgence très intéressante dans le texte de Burgess de la question de la traduction, c'est qu'en entrant dans Valladolid, les Anglais découvrent contre les murs des inscriptions qui leur sont hostiles. Et le traducteur dit, mais il n'y a pas que ces inscriptions aussi, vous ne pourriez pas penser être reçu avec seulement enthousiasme. Et il dit, notre poète Góngora s'est déjà mis à l'œuvre. Il écrit comme si tout était déjà terminé, c'est-à-dire la paix avait vécu. Et, texte de Burgess, il tenait une feuille de papier dans sa main, le traducteur, finement gantée. Comme vous ne connaissez pas le castillan, je vais traduire. Et ici, il traduit un poème, donc écrit d'abord originalement en anglais, à partir d'un texte de Góngora, et qui donne dans la traduction française la chose suivante. Nous étalons une pompeuse, une exubérante stupidité, et de mensonges nous chargeons nos festivités. Pour les légats et leurs espions, cupides luthériens que nous recevons, Luther est riche, mais nous, sur le carreau, qu'importe la paix, je lui pisse dessus. Voici un beau sujet de comédie pour le Don Sancho et son bourricot. Alors c'est un des moments très intéressants de ce texte de Burgess, c'est de voir comment la création littéraire opère à partir d'un savoir historique. Parce qu'effectivement, il y a eu un poème écrit par Góngora, ou du moins attribué à Góngora, et dans les éditions récentes, il y a beaucoup de doutes sur l'authenticité de ce poème, qui avait été introduit dans le corpus des poèmes de Góngora au cours du XIXe siècle. Et ce poème est le suivant. J'ai traduit le texte espagnol, puisqu'évidemment, on ne peut pas penser que ce que j'ai lu là était la traduction de l'anglais de Burgess traduisant l'espagnol de Góngora. Il n'est pas question d'un geste aussi radical dans le texte de Góngora que celui que veut exercer dans le poème le poète. Alors, ce poète authentique, pas forcément de Góngora, mais authentique de 1605, est le suivant. La reine accoucha, et les premiers mots donc sont pario la reine. La reine accoucha, vint le luthérien, avec 600 hérétiques et hérésies. Nous avons dépensé 1 000 000 en 15 jours pour leur offrir des bijoux, l'hospitalité et du vin. Nous fîmes un faste déraisonnable et des fêtes qui furent autant d'outrages pour le légat anglais et ses espions, qui jura la paix sur Calvin. Et les derniers vers sont « Nous restons pauvres, le luthérien s'enrichit, quedamos pobres, fue Lutero rico. On a demandé d'écrire ces hauts faits à Don Quichotte, Sancho et son âne. Mandaronse escribir estas hazañas a Don Quixote, a Sancho y su jumento. » Donc on voit que le poème de Góngora, ou attribué à Góngora de 1605, bien sur ce qu'il en est dit dans la nouvelle, c'est-à-dire un texte qui dénonce l'hérésie anglaise, mélangeant à la fois le luthérien et Calvin, et qui dénonce la paix et qui dénonce l'extrême faste et donc les dépenses immenses qui ont été faites durant ce séjour de l'ambassade anglaise, pour l'essentiel à Valladolid, après son arrivée à Coruña et son départ. Et, intéressant, poème, on ne sait pas la date exacte, mais sans doute de 1605, le dernier vers, c'est-à-dire qu'on a demandé que soient écrites ces hazañas dans le sens de contraire, c'est-à-dire de ces hauts faits qui sont des méfaits, puisqu'on a dépensé inutilement, on a choyé les protestants, et on a du coup permis aux Anglais et à leurs espions de s'introduire en Espagne. On a demandé d'écrire ces hauts faits à Don Quichotte, Sancho y su Jumento. Si le poème est vraiment de 1605, comme il semble que ce soit le cas, c'est une des mentions assez précoces de Don Quichotte. Don Quichotte a été imprimé à la fin de 1604. La tasa et le fait des errata sont de décembre 1604 et donc a commencé à circuler à Valladolid, à Madrid et dans d'autres villes à partir de début de 1605. Et donc Góngora ou le pseudo Góngora s'empare de cette référence, Don Quichotte, Sancho, su Jumento, pour faire que la célébration, la commémoration de ce qui s'est passé à Valladolid avec le traité de paix soit traitée avec le même ridicule, le même ironie, la même satire que les aventures de Don Quichotte dans le texte. Et ce qui vient s'ajouter encore à cela, c'est le fait que en 1605, Cervantes est entre Madrid, mais aussi Valladolid, et que la relation dont je parlais, c'est-à-dire la relation espagnole des festivités entre la naissance du prince Don Felipe et jusqu'à la fin des fêtes, publiée à Valladolid en 1605, a été attribuée, là aussi, de manière discutable, à Cervantes lui-même. Et donc, il y a ce « nous », la publication du roman, le poème anti-anglais de Góngora et qui utilise la figure de Don Quichotte et Sancho comme auteur d'une dénonciation satirique de cette paix et de ces fastes, et le fait que dans la relation des festivités, certains ont retrouvé la présence ou l'écriture ou le style de Cervantes, ce qui est mis en doute tout à fait aujourd'hui dans la relation étant attribuée plus volontiers à le chroniqueur des Indes, Antonio de Herrera. Mais vous voyez comment ce détail que Burgess connaît la discussion autour du poème de Góngora, il s'en saisit au moins pour partie. Voici un beau sujet de comédie pour le Don Sancho et son bourrico. Il faudrait reprendre l'anglais d'ailleurs original, mais c'est le sens, c'est celui-là. Il le détourne, il lui ajoute des vers qui n'en font pas partie. Et du coup, met en scène à la fois ce sentiment anti-anglais exprimé par ce poème et la nécessité de sa traduction pour les Anglais qui ne le comprennent pas. L'autre moment dans cette rencontre à Valladolid où Burgess retourne à ce thème de la communication ou de l'incommunicabilité, c'est d'avoir inventé la langue dans laquelle Shakespeare et Cervantes vont parler, dans la mesure où cette langue est liée au portrait de Cervantes qui est rencontré dans une première fois par hasard, sans qu'il y ait un échange de paroles par Shakespeare. Burgess. Dans cette maison que vous voyez là, parce qu'il leur fait visiter la ville de Valladolid, habite maître Miguel de Cervantes Saavedra, père du Don de Sancho, comme du Bourrico de Sancho. Tenez, le voici qui s'éloigne, sans regarder ni devant ni derrière, ni à droite ni à gauche, un homme sans amis, maltraité par le monde et qui refait le monde dans sa tête. C'est un vieil homme, vieux. C'est un vieil homme, vous voyez, 57 ans bien comptés, les cheveux gris. On doit jouer une pièce de lui au cours de ses fêtes célébrant la paix, mais il n'en a cure. Il s'est éreinté à écrire pour le théâtre sans rien gagner. Je vous suggérerais de ne pas chercher à le rencontrer. Il ne connaît pas un mot de votre langue, et même en castillan, il est très laconique. Pourtant, il lui arrive de se montrer volubile dans la langue des Maures, qu'il a apprise lorsque, fait prisonnier, il se retrouva otage et esclave. Donc ce Cervantes de Burgess connaît l'arabe, qu'il aurait appris durant les 5 années qu'il a passées à Alger. On n'a pas de traces d'évidence de cela, mais il est certain qu'il y avait une familiarité entre Cervantes et ce monde des barbaresques ou des Ottomans lors de la captivité à Alger. Il s'en servira dans 2 pièces de théâtre et le récit du captif évadé dans les chapitres de la première partie de Don Quichotte. Mais ce qu'invente en plus, Burgess, c'est pas seulement que Cervantes est tout à fait à l'aise en espagnol, c'est ce que dit Shakespeare. « La langue des mots, dit Will, je n'ai été ni esclave ni otage, mais j'en ai appris quelques bribes. Quand j'ai accompagné Monseigneur de Southampton dans sa mission à Rabat, où il devait acheter des chevaux arabes pour la campagne d'Irlande de Monseigneur d'Essex, mission qui a échoué. Et campagne qui a échoué, soit dit en passant. Je crois qu'à présent, mon estomac s'est assez calmé pour accepter un souper. Il revient à ses douleurs stomacales. Mais l'idée là est que pour créer un motif littéraire sur une rencontre inattendue, Shakespeare aussi connaît un peu d'arabe, puisqu'il aurait, alors là il n'y a aucune base historique, accompagné Southampton au Maroc pour acheter des chevaux arabes, bien sûr, pour Essex. Et effectivement, lors de leur première rencontre, les paroles qu'ils échangent, ou du moins Shakespeare, s'essayent à un mélange entre l'anglais de Burgess et des mots d'arabe à l'intérieur de sa langue, ce qui va irriter beaucoup Cervantes en lui disant qu'il le prononce très mal et qu'il ne le connaît pas et qu'il ferait mieux de retourner à sa langue natale qu'il doit connaître plus ou moins et que traduira Don Manuel. On voit qu'il y a là une thématique qui obsède, qui intéresse Burgess, et dans les autres nouvelles du recueil aussi ce thème de la communication par la connaissance réciproque, par l'intermédiaire des interprètes ou par une langue médiane est un thème absolument récurrent. Alors, quand ils sont à Valladolid, va apparaître un autre motif dans la nouvelle de Burgess, et qui est un motif qu'on pourrait dire du seuil différentiel de tolérance à la cruauté. Dans la mesure où ce que les Espagnols ont prévu comme divertissement pour les Anglais, c'est entre autres une course de taureaux, une corrida. Dans le dictionnaire de Covarrubias, on emploie seulement la formule « el correr de los toros », mais le mot « corrida » au sens moderne apparaît assez tôt, puisque dans le dictionnaire de l'Académie royale, au début du XVIIIe, on a déjà la définition de « corrida », course de taureaux. Mais la raison de cette « corrida », ou son introduction dans la nouvelle, est liée à un autre élément qui est le fait que avant la corrida apparaissent sur l'arène les personnages de Sancho et Don Quichotte. Je cite Burgess dans la traduction. La cérémonie commença par une sonnerie aiguë de trompette, sur quoi arriva au milieu de l'arène un vieil homme long et maigre, avec une armure de carton-pâte, un casque fendu, mais rapetassé avec de la ficelle, une lance cassée aux deux morceaux réunis par une bandelette sale, chevauchant une rosse déplorable dont les os saillaient à travers la peau miteuse. Il était suivi d'un petit homme gras, à califourchon sur un âne, qui, toujours et encore, portait à ses lèvres frangées de poils hirsurtes une gourde d'où ruisselait le vin. Les deux personnages accueillirent à grands gestes les applaudissements de la foule qui, à l'évidence, les aimait. Derrière eux, à bonne distance, sortant du puits d'ombre, clopinèrent deux hommes habillés en moines et brandissant chacun une pique au bout de laquelle flottait une bannière où se lisait en rouge « Pax et paupertas ». La foule hurla son approbation et de nouveau conspua les Britanniques. « Will, » dit à Don Manuel, « le faux chevalier maigre et son gros valet, ce sont des personnages de livres. » « C'est cela, mais le livre est trop petit pour eux, ils s'en sont échappés comme d'une prison. » C'est un magnifique passage, puisque l'idée ici est l'association entre le Don Quichotte et une festivité. Et dans ce cas-là, précisément, une corrida, ce qui, historiquement, arriva en 1608, dans l'entrée du duc de Lerma, qui était le principal ministre, le valido de Philippe III, dans la ville de Tudela del Duero, que Lerma avait reçu pour accroître ses domaines, les festivités, qu'on a une relation, qui furent faites, furent une course de taureaux qui a eu lieu sur la place de l'hôtel de ville. En ce moment-là, y compris pour les fêtes à Valladolid, il n'y a pas d'arène, proprement dit. L'arena, c'est le sable que l'on met sur une place en y mettant des barrières tout autour, et c'est là que se déroule le jeu des toros. À Tudela del Duero, en 1608, trois ans après la publication du roman, on a entremêlé ou ouvrant la corrida les aventures du cavalier Don Quichotte, la aventura del caballero Don Quixote. Donc il y a bien là aussi un jeu entre cette fiction imaginée par Burgess, la corrida pour les Anglais ouverte par une mascarade de Don Quichotte et Sancho, et ce qui adviendra ultérieurement. Je reviendrai sur ce thème-là de cette présence de Don Quichotte et de Sancho en 1605, en relation avec la corrida. Mais pour l'idée de la cruauté, ce qui est là l'objet de la cruauté, c'est effectivement d'obliger les Anglais à assister à cette corrida. Et l'intolérable, en particulier pour le Shakespeare de Burgess, c'est non pas tellement la mort des taureaux, mais la blessure ou la mort des chevaux, puisque dans cette corrida, comme dans le modèle moderne, il y avait à la fois des chevaliers ou des gentilshommes qui se lançaient à pied, mais aussi montés sur des chevaux qui étaient les victimes des taureaux. Et pour Shakespeare, c'est le seuil de l'intolérable, c'est-à-dire cet massacre ou cet éventrement des chevaux. À l'inverse, dans les réjouissances qui sont prévues durant la séjour, au moins pour Burgess, il y a des représentations théâtrales qui seront données dans la grande salle de l'université. Et la représentation théâtrale imaginée par Burgess, c'est une représentation qui commence dans une première partie par une pièce de Lope de Vega, dont il donne le titre, La boba para los otros y discreta para sí, et qui est effectivement un titre d'une des comédias de Lope, de 1613, La dame à boba, mais le titre complet, c'est la boba para los otros, l'idiote pour les autres, mais intelligente ou rusée pour elle-même, et d'autre part, une pièce de Shakespeare. Et alors, il y a une discussion entre les comédiens pour savoir quelle pièce ils vont représenter, et le choix se porte sur Titus Andronicus. Dans une certaine forme de réciprocité de la cruauté, puisque le choix de Titus Andronicus est ainsi proposé par Shakespeare. Ces Espagnols cultivés allaient assister au rapt d'une fille à qui l'on couperait les bras et la langue, au meurtre des violeurs par le père de la fille, à leur transformation en pâté, que l'on donnerait à manger à leur mère, sans compter un mort à Aaron, qui serait enterré vivant et mourrait en blasphémant. Ces Espagnols savaient tout des morts. Il était trop tard pour changer quoi que ce soit, que le spectacle continue. C'est une version tronquée de Titus Andronicus que virent les Britanniques et leurs hôtes au timbistre, avec plus de sang, celui d'un cochon acheté en ville, que de bons verres. Quelques Espagnols se comportèrent comme s'ils allaient vomir, une gestuelle blâmable, et ceux qui avaient mangé amplement et bu en conséquence sortirent se livrer à plus qu'une simple gestuelle. Les Britanniques s'installèrent confortablement et avalèrent avec délice toutes les horreurs, y compris le pâté. Vous vous souvenez d'Antitus Andronicus, effectivement, la description est exactement celle-ci. La jeune femme, la vigna à qui ont coupé les bras et la langue, les fils transformés en chair à pâté servie, comme chez Sénèque, à leur mère. Donc, c'est cette sommet de l'horreur est le seuil de l'intolérable pour les Espagnols, alors que les Anglais le prennent avec ce flegme confortable qui est décrit par Burgess. Donc il y a là aussi, dans cette nouvelle, un deuxième thème par rapport à l'universalité. Le premier thème, c'est l'universalité brisée et désespérément recherchée avec la fragmentation des langues. Et donc, il y a comme une image, d'ailleurs explicite, de Babel dans la nouvelle. Et le deuxième, c'est cette variation de ce qui paraît intolérable. Qu'est-ce qui vous fait vomir? Ce qui fait vomir Shakespeare, ce n'est pas seulement le mal de mer ou la comida espagnole, c'est aussi de voir les chevaux massacrés. Ce qui fait vomir les Espagnols, c'est de voir la représentation de Titus Andronicus. Alors, je vais terminer avec la réalité historique à laquelle renvoie cette fiction-là, dans ce passage-là de Burgess. Dans la mesure où l'on a non seulement la relation en anglais, non seulement la Relación publiée à Valladolid, mais aussi un témoignage fondamental, celui d'un noble portugais, Tomé Pinheiro da Veiga, qui, dans un manuscrit publié en 1911 en portugais, décrivait les fêtes de Valladolid auxquelles il avait assisté. Et il décrivait en particulier, pour le 10 juin, c'est-à-dire en fait le 31 mai dans le calendrier anglais, la description, il décrivait la corrida, le juego de toros, c'était mentionné comme ça là dans le texte anglais. Et il montrait effectivement ce qui se passait pendant ce jeu des taureaux, c'est-à-dire le fait que c'était de jeunes nobles, des ducs ou des marquis qui affrontaient les taureaux, et dit non seulement il en nomme certains, mais il dit aussi d'autres fidalgos, donc d'autres noble. Donc, ce n'est pas du tout un corrida avec des toreadors ou des picadors professionnels. C'est une corrida avec les jeunes nobles qui affrontent les taureaux et avec aussi, évidemment, l'aide de leurs serviteurs. Il y a dans cette chronique de Tomé Pinheiro da Veiga un texte qui est constamment cité et que vous pourrez trouver souvent dans la bibliographie anglaise pour montrer, ou espagnole, pour montrer le succès immédiat de Don Quichotte. Un phénomène tout à fait remarquable, puisqu'on l'a vu, Gongora, 1605, quelques mois après la publication du livre, s'en sert déjà comme d'une référence admise, une connivence avec le lecteur. Et le texte de Pinheiro de Veiga est souvent cité pour montrer aussi cette immédiateté, est très souvent cité, peut-être que Burgess le connaissait, comme cela, c'est-à-dire comme si, avant le jeu des taureaux, avant la corrida, on avait eu la présence dans une mascarade de Don Quichotte et de Sancho Panza. On serait donc devant, dans la réalité de la fête du 10 juin, date espagnole, devant ce que décrit Burgess. Et en fait, je pense que c'est une erreur, non pas sur l'essentiel, c'est-à-dire Don Quichotte est connu, incorporé, mémorisé, utilisé, convoqué, presque immédiatement après la publication, mais sur l'interprétation du texte de Pinheiro da Vega, et qui peut-être va encore même plus loin dans cette idée d'une réception rapide et puissante que l'idée que l'on a mis en représentation dans l'arène les deux personnages. Parce que ce qu'écrit Pinheiro da Vega, c'est l'arrivée d'un noble portugais qu'il dit, il arrive seul, sans compagnie, et qui arrive Don Quichotte. Un Don Quichotte, donc ce personnage avec un grand chapeau, une cape de laine, des chausses de velours, des bottes qui ont des éperons qui battent contre les flancs d'un pauvre roussin, un pobre quartan russo, avec une plaie pour ce malheureux cheval sur l'échine, les harnais d'un coche et la selle d'un cocher. Et il est précédé par un Sancho Panza, qui est l'écuyer de ce noble portugais, qui porte des lunettes, qui est doté d'une grande barbe et qui a au milieu de la poitrine, sur son habit, une croix. Habitu de Christo. Et du coup, on a une identification de ce noble portugais comme un Don Quichotte, de cet écuyer comme un Sancho, même si le détail fait que le Sancho de Cervantes n'est pas vêtu, ou il ne porte pas de lunettes, il n'a pas une grande barbe comme ce Sancho de Valladolid du 10 juin 1616, ce qui a pu tromper les commentateurs, leur faisant croire qu'il s'agissait d'un spectacle dans lequel il y avait Don Quichotte et Sancho, c'est le fait que le Portugais lui-même, pensant à la corrida qu'il décrit beaucoup plus tard, avait été précédé d'un entremesse. Mais il l'emploie dans un sens métaphorique. C'est un entremesse qui est dans son imagination ou son regard. Ce n'est pas un spectacle qui a été organisé. Et ce qui les a trompés aussi, c'est qu'ils n'ont pas lu la suite de cette description, puisque dans la suite de cette description, les voisins, plutôt les vésinas, les voisines de Pinheiro de Vega, lui disent « Mais qui c'est ce personnage ? C'est l'ambassadeur de Portugal ?» qui était une plaisanterie dans un sens, puisque cet homme arrivait comme un Don Quichotte. Et en plus, il n'y avait pas d'ambassadeur de Portugal, puisque le Portugal appartenait à la couronne de Castille, Aragon et Portugal depuis 1580. Et il leur répond « Non, c'est Jorge de Lima Barreto, je cite, qui a voulu accompagner ainsi son roi, c'est-à-dire d'être seul, et non pas avec les courtisans qu'il méprise, et qui a pris un cheval de sa voiture qui ne voulait pas avancer. Et donc, du coup, c'est parce qu'il ne pouvait pas arriver avec sa voiture ou son coche qu'il en a dételé un cheval et qu'il apparaît ici avec ce pauvre cheval et monté sur une selle de cocher. Donc on voit que la description dans l'interprétation reste forte, c'est-à-dire qu'au mois de juin 1605, un Portugais à Valladolid, qui avait lu Don Quichotte, pouvait déjà utiliser mentalement les références à Don Quichotte et à Sancho pour identifier dans la vie réelle un malheureux noble portugais comme un Don Quichotte, et donc du coup d'identifier, même s'il n'y avait pas énormément de points communs, son valet comme un Sancho. Ce qui donc, dans un sens, renforce la puissance du roman, puisqu'il s'est déjà imprimé, dans un sens, dans l'esprit de ses lecteurs. Je termine avec la deuxième description que donne Pinheiro da Veiga des fêtes de Valladolid. C'est le 7 juin, un peu avant, le fait que l'ambassade est reçue par le duque de Lerma dans son palais, très beau palais, un patio, au milieu une fontaine, et que l'on y donne une commedia, avec, pour protéger les spectateurs, une tente qui est au-dessus de leur tête dans un moment où le soleil frappe très fort. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans la relation anglaise, on dit, on a donné a play, an interlude, il n'y a donc pas de précision de qu'est-ce qui a été représenté, alors que Piñeiro da Veiga dit quelle est la comédia qui a été représentée. Ce n'était pas celle qu'imagine Burgess, la Dama Bobo, c'était une comédia qui a pour titre Le Caballero de Illescas, et qui est une comédia, effectivement, de Lope. Alors, je vais arrêter là dans cet exercice pour le terminer la semaine prochaine, de croisement entre, d'un côté, une magnifique fable qui est cette nouvelle de Burgess, inventant la rencontre de Valladolid, et de l'autre côté, les matériaux historiques qui ne nous arrivent pas nécessairement purs et transparents, mais qui nous sont transmis à travers ces trois chroniques des événements. The Relation, publiée à Londres en 1605, La Relation, publiée en 1605 aussi à Valladolid, et cette chronique manuscrite, qui a été publiée au début du XXe siècle, de ce noble portugais. Et dans ce jeu entre la fiction contemporaine et la réalité historique ancienne, on voit que peuvent naître un certain nombre d'interrogations, de lieux d'enquête ou de réflexion sur ce qui est le thème de ce cours, Shakespeare et Cervantes. Merci.